Imaginons un instant. On passe 10 ans à construire la présence numérique parfaite. On investit des fortunes pour hisser un site web à la sacro-sainte première position sur Google.
Ouais, le but ultime de toute entreprise, en fait.
Exactement. C'était le contrat tacite d'Internet, une mécanique qui était ancrée dans nos esprits comme un réflexe pavlovien. En gros, on tape une question, on obtient des liens bleus, l'internaute clique sur le premier et le trafic afflue. Mais imaginons qu'on se réveille aujourd'hui avec des données complètement vertigineuses. Celles de 2026, qui sont d'ailleurs validées par Spartoro, SEMrush et le dernier Google I.O. Ces chiffres révèlent que 60% des recherches ne génèrent plus aucun clic vers un site web.
Zéro clic, c'est quand même un truc de dingue.
Zéro. Les visiteurs se sont littéralement volatilisés. Et pourquoi ? Eh bien parce que 75% de ces recherches affichent désormais un résumé complet qui est généré directement par l'intelligence artificielle.
Et la conséquence directe de ça, c'est que cette fameuse première position organique, elle a perdu 58% de son taux de clic.
C'est énorme.
C'est massif. Le contrat tacite dont on parlait, il est officiellement rompu. Le trafic tel qu'on l'a conceptualisé pendant plus de 2 décennies est tout simplement en train de s'évaporer. Le paradigme a complètement basculé.
Donc le but, ce n'est plus du tout d'amener les gens sur notre page, c'est ça ?
Exactement. L'objectif fondamental n'est plus d'attirer l'internaute sur une page de destination. L'enjeu, désormais, c'est de devenir la matière première indispensable, celle que l'intelligence artificielle va extraire, digérer et utiliser pour formuler sa réponse finale directement dans sa propre interface.
Et c'est précisément le cœur de notre exploration du jour. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui gèrent une activité en ligne ou qui cherchent juste à comprendre comment l'information circule aujourd'hui, nos sources offrent une véritable carte au trésor.
C'est le mot « oui ».
On s'appuie aujourd'hui sur une cartographie monumentale qui a été dressée par Philippe Tranteau. C'est un travail qui synthétise 10 publications scientifiques majeures, publiées entre fin 2023 et début 2026, par des institutions vraiment prestigieuses, genre Princeton, le MIT ou encore l'Université de Berkeley.
Tout à fait. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre l'émergence de cette nouvelle science très concrète qu'on appelle le GEO.
Le G-E-O ?
Voilà, pour Generative Engine Optimization. Ou, si on traduit en français, l'ingénierie des entités. L'idée pour notre audience, c'est d'expliquer comment ne plus naviguer à l'aveugle dans ce nouvel écosystème. Parce que le but, ce n'est plus d'apparaître dans une liste de liens. Le but, c'est d'être cité par des IA comme ChatGPT, Perplexity ou Claude. C'est comment forcer mathématiquement ces modèles à nous choisir, nous.
Bon, décortiquons tout ça. Il y a une étude qui revient sans cesse dans nos documents, c'est le papier fondateur de l'Université de Princeton qui a été présenté à la conférence KDD en 2024. C'est là que le terme « GEO » naît officiellement, non ?
C'est ça. Mais au lieu de simplement constater que les règles ont changé, ces chercheurs ont vraiment cherché à mesurer cette influence. Ils ont introduit une métrique implacable, le Position Adjusted Word Count.
Le comptage de mots ajusté selon la position.
Exactement. Pour bien comprendre cette métrique, il faut imaginer une dissection mathématique du texte généré par l'IA. L'algorithme de mesure ne vérifie pas simplement si un lien source apparaît vaguement en bas de la page.
Ce serait trop facile.
Voilà. Il calcule combien de mots très précis issus d'un contenu original ont été littéralement injectés dans la réponse de la machine. Et surtout, il donne un poids exponentiel aux mots qui apparaissent dès la première phrase de l'IA.
Ah, d'accord. Donc si mon paragraphe dicte l'introduction même de la réponse de ChatGPT, mon score d'influence explose ?
Totalement. C'est la position qui prime.
Ce qui est fascinant là-dedans, je trouve, c'est la méthodologie. Ils n'ont pas juste théorisé dans leur coin. Ils ont fait passer genre 10 000 requêtes complexes à travers différents modèles d'IA. Ils ont comparé des pages web standards avec des pages qui étaient modifiées selon plusieurs stratégies.
Et les résultats sont sans appel. Les données isolent 4 interventions majeures. Elles montrent que l'IA cherche désespérément des signaux d'autorité académique.
Ok, c'est-à-dire ?
Eh bien, premièrement, ajouter des citations clairement sourcées dans un texte, ça augmente sa probabilité d'être extrait de 41%.
41% ?
Ouais. Deuxièmement, l'intégration de statistiques pures et de données quantifiables, ça apporte un gain de 32%. Ensuite, faire explicitement référence à d'autres publications crédibles ajoute 30%. Et enfin, le quatrième point, c'est la fluidité. C'est-à-dire l'absence de jargon inutile au profit de transitions vraiment logiques. Ça augmente la visibilité algorithmique de 28%.
Faut quand même qu'on s'arrête 2 secondes sur l'ironie absolue de cette situation. L'humanité dépense des milliards pour développer les réseaux de neurones les plus complexes jamais conçus, des machines qui traitent des pétaoctets de données à la seconde.
Ouais.
Et pour leur plaire, il faut appliquer les règles de méthodologie d'un vieux professeur de lettres du siècle dernier.
C'est vrai, c'est très paradoxal.
C'est fou!
Citer ses sources, quantifier ses propos, structurer ses transitions. En fait, cette superintelligence artificielle de pointe, elle se comporte comme un correcteur universitaire super pointilleux. Mais l'analogie est très juste, hein. Le modèle linguistique a été entraîné sur d'immenses corpus de textes humains. Donc, par conception, il a appris à associer la fiabilité aux marqueurs traditionnels de la rigueur intellectuelle.
Ah, ça a du sens.
L'IA ne comprend pas la vérité dans l'absolu. Elle calcule la probabilité de pertinence en se basant sur cette rigueur apparente. Cependant, rédiger un texte qui serait digne du prix Pulitzer, c'est que la première moitié de l'équation. Le sens tout seul, aujourd'hui, c'est aveugle.
Ok, donc il manque quelque chose.
Et c'est exactement ce que démontre la deuxième publication majeure de notre cartographie, le papier GeoSFE de mars 2026. SFE pour Structural Feature Engineering.
Donc, admettons, j'ai appliqué la méthode de Princeton à la lettre. Mon texte est hyper fluide, il est bien sourcé, rempli de statistiques. Il se passe quoi si je m'arrête là?
Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est que l'optimisation sémantique pure devient caduque si l'architecture qui l'entoure est défaillante. La thèse du papier GeoSVO introduit vraiment la loi de la machine readability, la lisibilité par la machine.
Ok.
L'étude révèle que la structure HTML d'un contenu détermine à elle seule 50% de ses chances d'être citée.
La moitié du travail, juste sur la structure.
La moitié. Parce que l'intelligence artificielle, elle lit pas une page web comme un humain. Elle parse du code. Si elle trouve un gros bloc de texte brut, elle doit dépenser énormément d'énergie de calcul, ce qu'on appelle des tokens, pour en extraire la logique.
Et ça, elle n'aime pas.
Non, elle déteste ça. En revanche, si ce même texte est encadré par des balises hiérarchiques impeccables, des H1, des H2, des listes à puces avec des balises UL ou des données tabulaires super propres, la machine cartographie l'information instantanément.
D'accord. Donc, si on résume la mécanique, entre deux articles au contenu sémantique strictement identique, vraiment le même texte, celui qui a la coquille HTML la plus structurée l'emportera systématiquement ?
Exactement.
En fait, on peut avoir le texte le plus intelligent du monde. Si la coquille HTML est mauvaise, l'IA fait semblant de ne pas comprendre. Elle passe simplement à la source technique la plus digeste. C'est le fond et la forme poussés à l'extrême algorithmique.
C'est tout à fait ça. Un audit de texte qui ignorerait son encapsulation dans le code source passerait à côté de la moitié de la bataille. L'IA privilégie toujours le chemin de la moindre résistance computationnelle.
Le web qui combine la perfection académique de Princeton et la structure HTML immaculée du papier SFE. On pourrait se dire que là, c'est bon, la citation est garantie.
On pourrait, ouais.
Pourtant, quand on parcourt nos sources, on découvre que ça ne suffit toujours pas si on se trompe sur ce qu'ils appellent l'intention. Il y a ce fameux framework GEval 2.0 qui a été révisé en mars 2026 et qui introduit une grille à 6 niveaux d'intention. Comment ça fonctionne exactement ce truc, hein ?
Le framework GEval 2.0 explique un changement profond dans le comportement de la machine. Avant, on construisait le web en silo. On créait un petit article très simple pour la phase de découverte du client.
Mmh.
Puis un autre article un peu plus complexe pour la prise de décision.
Le fameux tunnel de conversion, quoi.
Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, quand un utilisateur pose une question à ChatGPT ou Claude, le modèle veut fournir la réponse la plus exhaustive possible en une seule interaction.
Ah !
Et si un algorithme doit piocher dans 6 pages différentes pour expliquer un concept, définir ses limites et trouver ses alternatives, ça lui coûte trop cher en puissance de calcul.
Donc la machine veut une source unique qui fasse tout le travail à sa place, c'est ça ?
Au lieu d'avoir un simple article de blog qui survole en sujet, il faut carrément construire une sorte de hub encyclopédique façon Wikipédia.
C'est l'idée.
Un seul et même contenu doit définir le problème, quantifier ses limites, proposer les alternatives et lister les applications concrètes. Tout ça en même temps. Un contenu ne peut plus se contenter d'une seule phase. Absolument. L'algorithme favorise mathématiquement les pages qui couvrent l'intégralité du spectre de cette grille d'intention à 6 niveaux. Un contenu monolithique, même parfaitement codé, il sera écarté au profit d'une page qui prouve une maîtrise en 3 dimensions du sujet.
D'accord.
Et c'est vraiment cette quête de la source ultime qui nous amène à la révélation sans doute la plus brutale de toute cette littérature scientifique.
J'imagine que vous parlez de l'étude de l'Université de Toronto de septembre 2025.
Le biais systémique.
Exactement.
C'est vrai que pour toute entité qui cherche à promouvoir ses propres produits, ce document, c'est un séisme économique. L'étude de Toronto prouve par des expérimentations à très grande échelle que les moteurs génératifs favorisent massivement ce qu'on appelle le « earned media ».
La presse, les répertoires, ouais, voilà. La presse, les sites institutionnels d'autorité, les comparateurs tiers, et tout ça au détriment direct des sites qui appartiennent aux marques elles-mêmes ou de leurs blogs.
Le poids des données de Toronto est écrasant là-dessus. Les grands modèles de langage, de par la nature même de leurs données d'entraînement, ils associent l'autorité à l'indépendance de la source.
Logique.
Du coup, face à une requête concernant un produit spécifique, l'algorithme a développé un biais complètement structurel. Il choisira délibérément de puiser son information dans un comparateur indépendant ou un magazine spécialisé.
En ignorant totalement la page officielle du fabricant.
Totalement.
Mais attendez, il faut qu'on s'arrête une seconde sur l'implication de ce biais. Si l'IA refuse systématiquement d'écouter les entreprises quand elles parlent d'elles-mêmes, est-ce que ça veut dire que toutes les marques jettent l'argent par les fenêtres en continuant d'optimiser uniquement leur propre site ?
C'est une vraie question.
Doit-on simplement licencier les équipes de contenu interne et espérer que de grands conglomérats médiatiques daignent parler de nous ? Mais est-ce que ça ne risque pas de créer un monopole de l'information pour les grands médias, ça ?
Alors, si on relie ça à la situation dans son ensemble, la réponse n'est pas de détruire les blocs d'entreprise, mais il faut absolument repenser l'écosystème budgétaire. Historiquement, le référencement, donc le SEO on-page, et les relations presse, le PR, c'était des silos totalement séparés.
Ouais, deux départements qui se parlaient peu.
Voilà. La découverte de Toronto impose la fusion de ces budgets. Créer un contenu parfait sur son propre site ne suffit plus du tout à générer de l'autorité algorithmique. Il faut impérativement que ce contenu soit validé, cité ou repris par des entités tierces que l'IA considère déjà comme autoritaires.
D'accord.
L'objectif, c'est vraiment de maîtriser sa part de voix en faisant en sorte que la presse devienne le vecteur de transmission vers l'IA.
Donc c'est un changement radical de stratégie. Et pour éviter de naviguer à vue dans ce nouvel écosystème assez complexe, les scientifiques ont fini par concevoir un barème universel. C'est d'ailleurs notre troisième grand axe aujourd'hui, mesurer l'invisible.
Oui, le fameux framework GEO16.
Voilà. Les chercheurs de l'université de Berkeley ont publié ça en septembre 2025. Qu'est-ce que ça dit exactement en réalité ?
Le GEO16 de Berkeley a le mérite de transformer des concepts un peu abstraits en une équation prédictive. Ils ont isolé 16 piliers structurels.
16 piliers, ok.
Ils sont regroupés en trois familles majeures. La richesse des métadonnées, l'intégrité de la sémantique HTML dont on parlait tout à l'heure, et la profondeur des données structurées. Et leur conclusion, c'est une probabilité mathématique extrêmement précise.
Ah oui, c'est mathématique.
Toute page web qui valide au moins 12 de ces 16 piliers franchit un seuil de conformité qu'ils ont évalué à 0,70.
Et les conséquences de ce score de 0,70, elles sont ahurissantes. Une page qui atteint ce palier, elle multiplie par 4,2 ses chances d'être extraite et citée par les moteurs IA. On parle de 78% de chances d'être citée sur tous les moteurs IA confondus par rapport à une page moyenne Findy.
C'est gigantesque.
Pour quiconque gère un commerce en ligne aujourd'hui, cette étude de Berkeley, c'est pas juste un papier académique, c'est littéralement le nouveau manuel de survie. Mais là où cette cartographie bascule de la théorie à un véritable scénario de science-fiction, c'est avec l'avènement de l'économie des agents autonomes. C'est documenté par trois papiers de 2025, ACES, Browser Agents et IGEO.
Oui, c'est la transition la plus folle. Jusqu'à présent, dans notre analyse, on parlait d'une IA qui répond à l'humain. Les papiers de 2025 décrivent l'étape suivante, qui est déjà en cours de déploiement en 2026. L'IA qui agit à la place de l'humain.
Ah ouais.
Des agents logiciels autonomes qui reçoivent une consigne, qui ouvrent des navigateurs virtuels, lisent le web, comparent des milliers de fiches produits en quelques millisecondes et qui prennent des décisions d'achat ou de réservation.
Sans aucune intervention humaine ?
Sans aucune validation humaine intermédiaire.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour imaginer cette mécanique pour notre audience, pensons à un personal shopper redoutablement efficace. Sauf que ce personal shopper, il refuse catégoriquement de regarder la décoration de la boutique. Il se fiche complètement des belles images de la vitrine ou des couleurs du site web.
Il s'en moque.
La seule et unique chose qu'il accepte de lire, c'est le code-barre industriel caché derrière les produits. Et dans le langage du web, ce code-barre, c'est le JSON-LD ou le schéma des fiches produits.
C'est une excellente analogie. Le JSON-LD, c'est en effet une couche de texte qui est invisible pour l'œil humain, mais primordiale pour la machine. Ça traduit un concept visuel. Par exemple, une paire de chaussures en cuir rouge à 100 € avec trois articles en stock dans une syntaxe rigide, faite de balises standardisées.
Ok,
L'agent autonome se connecte et aspire ce fichier JSON en une milliseconde. Si la donnée est absente ou même juste mal formatée, l'agent considère que le produit n'existe pas et il passe direct au concurrent, quelle que soit la qualité visuelle du site.
Donc l'humain est totalement court-circuité de la boucle de décision. D'ailleurs, les projections issues de ces sources prévoient que le canal Google Ads, qui est quand même historique, est voué à perdre 25% de ses requêtes d'ici la fin de l'année 2026. Tout ça à cause de ces assistants IA qui contournent les publicités visuelles. C'est un transfert massif.
C'est colossal. Et ce transfert crée une dynamique de marché particulièrement brutale. C'est analysé dans une étude conjointe de Columbia et Yale. Les chercheurs y expliquent que ces agents autonomes provoquent une ultra-concentration de la demande.
Autour de quoi ?
Autour de ce qu'ils nomment des produits modaux. En statistique, la modalité, c'est la valeur la plus fréquente dans un ensemble. L'IA va synthétiser des milliers d'avis et de données techniques pour établir un consensus absolu sur le meilleur rapport qualité-prix. Elle désigne un vainqueur modal et elle ignore purement et simplement le reste du catalogue mondial.
C'est terrible. Il n'y a donc plus aucune place pour l'exploration par le hasard ou l'achat d'impulsions.
Plus du tout.
Et le plus effrayant, c'est la volatilité de cette mécanique.
Oui, parce que les parts de marché deviennent extrêmement instables. L'étude montre que les choix que ces agents se concentrent tellement qu'une simple mise à jour logicielle en coulisses, genre le passage d'un modèle LLM à un autre par OpenAI ou Google, ça peut redéfinir tous les critères de pondération.
Sans aucune intervention humaine.
Exactement. Zéro. Du jour au lendemain, un produit qui captait 45% des recommandations automatiques peut s'effondrer à 10%, simplement parce que l'algorithme a décidé de valoriser un autre attribut technique dans le code source.
On ne se bat plus contre des concurrents physiques, en fait. On lutte en permanence pour s'aligner sur des critères microscopiques d'un algorithme invisible.
C'est ça.
Ce qui soulève inévitablement la question de la stratégie. Face à ça, comment on s'adapte ? L'étude longitudinale de juillet 2025 indique clairement qu'un simple audit technique ponctuel, une fois par an, c'est devenu complètement archaïque.
L'approche set and forget, où l'on optimise une page pour ne plus y toucher pendant un an, c'est mort. L'étude démontre que les schémas d'attribution des modèles génératifs évoluent d'une semaine sur l'autre. Les schémas de citation changent toutes les semaines.
Toutes les semaines.
Oui. Une page très citée en mai peut disparaître des résumés en juin si elle perd ses signaux de fraîcheur. Ou si ses concurrents renforcent leurs propres entités. L'écosystème exige aujourd'hui une surveillance télémétrique continue.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour synthétiser pragmatiquement pour notre audience ? On peut dégager 4 grands piliers opérationnels. Le premier, c'est la transformation IA, c'est-à-dire inscrire les informations dans des knowledge graphs pour que les machines comprennent qui est qui.
Oui.
Le deuxième pilier, c'est le marketing augmenté. L'application méthodique de l'étude de Princeton, des statistiques, des sources académiques, une sémantique irréprochable.
Le troisième pilier, c'est la mise en place de cette fameuse surveillance continue dont on vient de parler. Monitorer sa part de voix algorithmique en permanence.
Et le quatrième ?
Le quatrième réside dans la couche d'entité multimodale. S'assurer que le code source, via le JSON LD, traduit parfaitement la réalité commerciale pour ces agents autonomes. Les sources mentionnent d'ailleurs que des initiatives émergent, comme le diagnostic IA de Wadzizi, qui permet de se positionner face à ces standards de Berkeley en moins de 90 minutes.
Des outils émergent pour cartographier tout ça, ce qui est plutôt rassurant. Mais avant de clore cette plongée au cœur de nos documents, il reste un angle mort monumental, un truc juridique qui plane sur cette économie des agents IA. C'est soulevé discrètement dans le papier sur les browser agents. Ces entités autonomes qui scannent le web à notre place, elles naviguent avec des règles totalement différentes de celles d'un utilisateur humain.
L'extraction de la donnée se fait désormais de manière complètement furtive. Les chercheurs documentent comment ces agents IA ignorent techniquement les bannières de consentement.
Ah oui ?
Ils contournent les pop-up et ils ne déposent aucun cookie de navigation. Ils entrent sur un serveur, scannent l'intégralité du savoir d'une page, en tirent un résumé pour l'utilisateur et se déconnectent instantanément. Le propriétaire du site ne le sait même pas.
C'est la mécanique d'un pillage invisible parfait. La machine aspire la valeur intellectuelle, l'utilisateur a son résumé net, mais le créateur originel, lui, il n'a ni la visite enregistrée, ni le clic, ni la preuve que son travail a été consommé.
Cela soulève une question importante, peut-être la réflexion la plus critique pour clôturer cette plongée au cœur de l'information. Si le trafic web humain qui servait de monnaie d'échange pour la publicité, s'effondre au profit d'agents invisibles qui naviguent incognito, comment les créateurs de contenu de demain pourront-ils prouver leur audience et monétiser leur travail ?
C'est un paradoxe qui donne le vertige, vraiment. Surtout quand on se rappelle notre point de départ. 60% des recherches ne génèrent déjà plus aucun clic. L'information invisible a pris le contrôle et la survie dépendra de notre capacité à parler sa langue. Pour ceux qui nous écoutent, merci d'avoir partagé cette analyse approfondie. À la prochaine fois pour une nouvelle exploration.